Jules Verne, Les naufragés du Jonathan. Première partie. Chapitre 1. Le Guanac. C'était un gracieux animal, le cou long et d'une courbure élégante, la croupe arrondie, les jambes nerveuses et effilées, les flancs effacés, la robe d'un roux fauve tachetée de blanc, la queue courte en panache, très fournie de poils. Son nom dans le pays, Guanaco, en français, Guanac. Vu de loin, ces ruminants ont souvent donné l'illusion de chevaux montés, et plus d'un voyageur, trompé par cette apparence, a pris pour une bande de cavaliers un de leurs troupeaux passant au galop à l'horizon. Seule créature visible dans cette région déserte, ce guanac vint s'arrêter sur la crête d'un monticule, au milieu d'une vaste prairie où les joncs se frôlaient bruyamment et dardaient leurs pointes aiguës entre des touffes de plantes épineuses. Le museau tourné au vent, il aspirait les émanations qu'une légère brise apportait de l'est. L'œil attentif, l'oreille dressée, pivotante, il écoutait, prêt à prendre la fuite au moindre bruit suspect. La plaine ne présentait pas une surface uniformément plate. Çà et là, elle était vallonnée de bosses que les grandes pluies orageuses, en ravinant la terre, avaient laissées après elles. Abrité par un de ses épaulements, à faible distance du monticule, rampait un indigène, un indien, que le guanac ne pouvait apercevoir. Aux trois quarts nu, n'ayant pour tout vêtement que les lambeaux d'une peau de bête, il avançait sans bruit, se faufilant dans l'herbe, de manière à se rapprocher du gibier convoité sans l'effaroucher. Celui-ci, cependant, avait la notion d'un péril imminent et commençait à donner des signes d'inquiétude. Soudain, un lasso coupa l'air en sifflant et se déroula vers l'animal. La longue courroie n'atteignait pas le but, elle glissa et, de la croupe, tomba sur le sol. Le coup était manqué, le guanac s'était enfui à toutes jambes. Il avait déjà disparu derrière un massif d'arbres lorsque l'Indien arriva au sommet du monticule. Mais si le guanac ne courait plus aucun danger, l'homme était menacé à son tour. Après avoir ramené à lui le lasso dont le bout était fixé à sa ceinture, il se préparait à redescendre quand un furieux rugissement éclata à quelques pas de lui. Presque aussitôt, un fauve s'abattit à ses pieds. C'était un jaguar de grande taille, au pelage grisâtre, marqué de tachetures noires, à centre plus clair, imitant la pupille d'un œil. L'indigène connaissait la férocité de cet animal, capable de l'étrangler d'un seul coup de mâchoire. Il recula d'un bond. Par malheur, une pierre qui roula sous son pied lui fit perdre l'équilibre. La main haute, il essaya de se défendre à l'aide d'une sorte de couteau fait d'un os de phoque très effilé qu'il était parvenu à tirer de sa ceinture. Un instant même, il espéra pouvoir se relever et se mettre en meilleure posture. Il n'en eut pas le temps. Le jaguar, légèrement touché, le chargea avec fureur. Renversé, les griffes du fauve déchirant sa poitrine, il était perdu. Juste à ce moment, retentit la détonation sèche d'une carabine. Le jaguar, le cœur traversé d'une balle, s'abattit foudroyé. À 100 pas de là, une légère vapeur blanche voltigeait au-dessus d'un des rocs de la falaise. Debout sur ce roc, se tenait un homme, sa carabine encore épaulée. De type à rien très accusé, cet homme n'était pas un compatriote du blessé. Il n'avait pas la peau brune, bien qu'il fût fortement hâlé, ni le nez élargi dans un profond enfoncement des orbites, ni les pommettes saillantes, ni le front bas sous un angle fuyant, ni les petits yeux de la race indigène. Au contraire, sa physionomie était intelligente, son front vaste et zébré des multiples rides du penseur. Ce personnage portait, coupé ras, des cheveux grisonnants comme sa barbe. Toutefois, on aurait pu, à 10 ans près, indiquer son âge, compris sans doute entre la quarantaine et la cinquantaine. Il était de haute taille et paraissait doué d'une force athlétique, d'une constitution vigoureuse et d'une santé inattaquable. Les traits de son visage étaient énergiques et graves, et toute sa personne exprimait la fierté, bien différente de l'orgueilleuse vanité des sots, ce qui lui donnait une véritable noblesse d'attitude et de geste. Comprenant qu'il ne serait pas nécessaire de décharger une seconde fois sa carabine, le nouveau venu l'abaissa, la désarma, la mit sous son bras, puis se retourna vers le sud. Dans cette direction, en contrebas de la falaise, se développait une large étendue de mer. L'homme, se penchant, appela « Caroli !» et il ajouta 2 ou 3 mots dans une langue rude et gutturale. Quelques minutes plus tard, par une coupure de la falaise, apparut un adolescent d'environ 17 ans, que suivit de près un homme dans la maturité de l'âge. Assurément, tous deux étaient indiens, à en juger par leur type bien différent de ce blanc qui venait de prouver son adresse par un si brillant coup de fusil. Bien musclé, larges épaules, torse puissant, grosse tête carrée portée sur un cou robuste, taille de 5 pieds, très brun de peau, très noir de cheveux, des yeux perçants sous une arcade sourcilière peu fournie, barbe réduite à quelques poils, tel était l'homme qui paraissait avoir dépassé la quarantaine. Les caractères de l'animalité, mais d'une animalité douce et caressante, le disputait à ceux de l'humanité chez cet être de race inférieure, qu'on eût été tenté de comparer, plutôt qu'à un fauve, à un bon et fidèle chien, à l'un de ces courageux Terre-Neuve, qui peuvent devenir le compagnon, mieux que le compagnon, l'ami de leur maître. Et ce fut bien comme un de ces dévoués animaux qu'il accourut à l'appel de son nom. Quant au jeune garçon, son fils, selon toute apparence, dont le corps, souple comme celui d'un serpent, était entièrement nu, il semblait très supérieur à son père au point de vue intellectuel. Son front plus développé, ses yeux pleins de feu, exprimaient l'intelligence et, ce qui vaut mieux encore, la droiture et la franchise. Lorsque les 3 personnages furent réunis, les 2 hommes échangèrent quelques mots dans ce langage indigène caractérisé par une aspiration courte à la moitié de la plupart des mots. Puis tous se dirigèrent vers le blessé qui gisait sur le sol près du jaguar abattu. Le malheureux avait perdu connaissance. Le sang coulait de sa poitrine labourée par les griffes de la bête féroce. Cependant, ses yeux fermés se rouvrirent lorsqu'il sentit une main écarter son grossier vêtement. En apercevant celui qui venait à son secours, son regard s'éclaira d'une faible lueur de joie et ses lèvres décolorées murmurèrent un nom, « Le Kaoudjer !» Le Kaoudjer, un mot qui signifie « l'ami, le bienfaiteur, le sauveur » en langue indigène. Et ce beau nom appartenait évidemment à ce blanc, car celui-ci fit un signe affirmatif. Pendant qu'il donnait les premiers soins aux blessés, Caroli descendit par la coupée de la falaise pour revenir bientôt avec un carnier renfermant une trousse et quelques flacons pleins de suc de certaines plantes du pays. Tandis que l'Indien soutenait sur ses genoux la tête du blessé, dont la poitrine était à découvert, le Kaoudjer lava les blessures et en étancha le sang. Il rapprocha ensuite les lèvres des plaies, qui furent recouvertes par des tampons de charpie, imbibés du contenu de l'un des flacons. Puis, détachant sa ceinture de laine, il en entoura la poitrine de l'indigène, de manière à maintenir tout le pansement. Le malheureux survivrait-il ? Le Kaoudjer ne le pensait pas. Aucun remède ne pourrait sans doute provoquer la cicatrisation de ces déchirures qui semblaient intéresser jusqu'à l'estomac et jusqu'aux poumons. Caroli, profitant de ce que les yeux du blessé venaient de s'ouvrir, demanda « Où est ta tribu ?»«
Là, là !»
murmura l'indigène en indiquant de la main la direction de l'est.
« Ce doit être à 8 ou 10 miles d'ici, sur la rive du canal, » dit le Kaoudjer. Ce campement dont nous avons aperçu les feux la nuit dernière. »
Caroli approuva de la tête.
« Il n'est que 4 heures, » ajouta le Kaoudjer, « mais le flot va bientôt monter, nous ne pourrons partir qu'au soleil levant. »
« Oui, » dit Caroli.
Le Kaoudjer reprit. « Halg et toi, vous allez transporter cet homme et vous l'étendrez dans la barque. Nous ne pouvons rien de plus pour lui. »
Caroli et son fils se mirent en devoir d'obéir. Chargés du blessé, ils commencèrent à descendre vers la grève. L'un d'eux reviendrait ensuite chercher le jaguar, dont la dépouille se vendrait cher aux trafiquants étrangers. Pendant que ses compagnons s'acquittaient de cette double besogne, le Kaoudjer s'éloigna de quelques pas et escalada l'un des rochers qui dentelait la falaise. De là, son regard rayonnait vers tous les points de l'horizon. À ses pieds se découpait un littoral capricieusement dessiné qui formait la limite nord d'un canal large de plusieurs lieues. La rive opposée, que des bras de mer échancraient à perte de vue, s'estompait en vagues linéaments, semis d'îles et d'îlots qui semblaient des vapeurs dans le lointain. Ni à l'est ni à l'ouest on apercevait les extrémités de ce canal le long duquel courait la haute et puissante falaise. Vers le nord se développaient interminablement des prairies et des plaines, zébrées de nombreux cours d'eau qui se déversaient dans la mer, soit en torrents tumultueux, soit par des chutes retentissantes. De la surface de ces immenses prairies jaillissaient par endroits des îlots de verdure, forêts épaisses au milieu desquelles on eût vainement cherché un village, et dont les cimes s'empourpraient des rayons du soleil alors à son déclin. Au-delà, bornant l'horizon de ce côté, se profilaient les masses pesantes d'une chaîne de montagnes que couronnait la blancheur éclatante des glaciers. Dans la direction de l'est, le relief du pays s'accentuait plus encore. À l'aplomb du littoral, la falaise se haussait par étages successifs, puis se redressait enfin brusquement en pic aigu qui allait se perdre dans les zones élevées du ciel. La contrée paraissait totalement déserte. Même solitude aussi sur le canal. Pas une embarcation en vue, fût-ce un canot d'écorce ou une pirogue à voile. Enfin, si loin que le regard pût atteindre, ni des îles du sud, ni d'aucun point du littoral, ni d'aucune saillie de la falaise, ne s'élevait une fumée témoignant de la présence de créatures humaines. Le jour en était arrivé à 7 heures, toujours empreinte de quelque mélancolie qui précède immédiatement le crépuscule. De grands oiseaux planeurs, en quête de leur gîte nocturne, fendaient l'air de leurs troupes bruyantes. Le Kaoudjer, les bras croisés, debout sur la roche qu'il avait gravie, gardait une immobilité de statue. Mais une extase illuminait son visage. Ses paupières palpitaient, ses yeux étincelaient d'une sorte d'enthousiasme sacré, pendant qu'il contemplait cette étendue prodigieuse de terre et de mer, dernière parcelle du globe qui n'appartint à personne, dernière région qui ne fut pas courbée sous le joug des lois. Longtemps il demeura ainsi, baigné dans la lumière et fouetté par la brise. Puis il ouvrit les bras, les tendit vers l'espace, et un profond soupir gonfla sa poitrine, comme s'il eût voulu embrasser d'une étreinte, aspirer d'une haleine tout l'infini. Alors, tandis que son regard semblait braver le ciel et parcourait orgueilleusement la terre, de ses lèvres s'échappa un cri qui résumait son appétit sauvage d'une liberté absolue et sans limite. Ce cri, c'était celui des anarchistes de tous les pays, c'était la formule célèbre si caractéristique qu'on l'emploie couramment comme un synonyme de leur nom, dans laquelle est contenue en quatre mots toute la doctrine de cette secte redoutable. « Ni Dieu, ni maître », proclamait-il d'une voix éclatante, tandis que, le corps à demi penché au-dessus des flots, hors de l'arête de la falaise, il semblait, d'un geste farouche, balayer l'immense horizon.